France Culture.
France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
À quelques jours du 4e anniversaire de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, l'Union européenne semble ébranlée dans ses fondements et dans son récit même, celui d'un espace qui s'est bâti après la Seconde Guerre mondiale sur la promesse d'une paix durable. Pourtant, depuis 1945, la guerre a frappé le sol européen à plusieurs reprises et sans qu'on mesure chaque fois sa portée véritable. Ainsi, les mémoires communes européennes sont-elles trop centrées sur l'Occident ? Comment les réécrire avec des voix multiples, c'est-à-dire en y intégrant ce qui est jusqu'alors considéré comme marginal. Une invitée ce soir pour nous éclairer, Christine Cadeau. Bonsoir.
Bonsoir, merci de votre invitation.
Merci d'être ici. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université Paris 8 et membre du laboratoire CRESPA, le centre de recherche sociologique et politique de Paris 8. Vous êtes par ailleurs l'autrice de cet ouvrage intitulé « Mémoires collectives européennes » dont l'édition augmentée sera disponible, je le précise, en ukrainien courant 2026. Merci d'être avec nous ce soir dans Questions du soir.
Nous faisons absolument tout pour mettre fin à cette guerre, pour qu'elle puisse se terminer et que la sécurité soit garantie. Avant le début de l'invasion, nous avions exhorté le monde à agir immédiatement, de manière préventive, pour empêcher l'invasion. J'ai envoyé notre commandant en chef de l'époque pour parler avec les Américains et leur expliquer les besoins de l'Ukraine en matière de défense. Le conseil le plus concret que les États-Unis ont pu donner à l'Ukraine à ce moment-là était tout simplement creuser des tranchées. Imaginez des centaines de milliers de soldats russes à vos frontières, un équipement militaire massif, et tout ce que vous entendez, c'est creuser des tranchées. Alors, si les troupes russes entrent en Lituanie ou dans un autre pays du flanc est de l'OTAN, qu'entendront les alliés ? Entendront-ils que l'aide arrive ? Espérons-le. Ou entendront-ils creuser des tranchées ? Nous devons pouvoir répondre fermement à cette menace. C'est pourquoi nous parlons d'une politique de défense européenne commune. C'est pourquoi nous avons besoin du soutien américain. C'est pourquoi l'Europe a besoin de l'Ukraine. L'armée ukrainienne est la plus puissante d'Europe.
Les propos du président ukrainien Volodymyr Zelensky lors de la conférence ce week-end, conférence sur la sécurité à Munich. Je voudrais vous interroger pour commencer, Christine Cadeau, sur le discours qu'on entend depuis 4 ans dans les médias français, dans les médias européens d'une manière générale. Ce discours qui consiste à dire on a assisté, il y a 4 ans exactement, à un retour de la guerre en Europe, sur le sol européen. Comment vous analysez justement ces propos ?
Déjà, évidemment, le retour signifierait que nous n'étions pas en guerre au préalable. Il faut quand même considérer que cette invasion russe de l'Ukraine ne commence pas il y a 4 ans, mais en 2014. Une réaction que l'on n'a pas eue, d'ailleurs. On n'a pas parlé du retour de la guerre en Europe en 2014. On n'avait pas parlé du retour de la guerre lorsque la Géorgie aussi avait été bombardée. Et on connaît aussi toutes les réactions aussi actuelles de la Géorgie et aussi ces étendards européens qui sont brandis aussi en dehors de l'Ukraine, dans d'autres pays qui ont subi les mêmes exactions avant l'Ukraine. Donc les signaux étaient là. La raison pour laquelle on ne les voit pas, on ne les a pas entendus, c'est cette cartographie mentale, probablement.
Une cartographie mentale.
Oui, ces marges de l'Europe qui sont trop éloignées de cette zone de paix qui commence pour l'Occident européen en 1945 et qui se déroule comme un long continuum de traités, d'adhésions successives, qui fait que l'histoire de l'intégration européenne aujourd'hui, telle qu'on l'enseigne le plus souvent, telle que je l'ai moi-même longtemps enseignée, à vrai dire, c'est une histoire d'adhésions successives. C'est une histoire de paix garantie par l'intégration européenne. Une histoire téléologique dont on connaît déjà la fin.
Mais si je tire le fil de cette métaphore, la cartographie mentale des Européens, cela signifie que la guerre est en dehors de ce territoire. On s'imagine encore fondamentalement dans un état de paix perpétuelle alors qu'on ne l'est plus ?
Je crois, oui. Et je crois que pour bon nombre de commentateurs encore aujourd'hui, sur les plateaux télé, derrière les micros, c'est aussi de dire les chars russes ne sont pas à Paris. Comme si, au fond, la seule image mentale que l'on pouvait avoir de la guerre renvoyait irrémédiablement à la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire les chars ou les troupes nazies à Paris. C'est cette pensée de la guerre, cette image de la guerre. Et je crois que Volodymyr Zelensky a tout à fait raison de nous renvoyer à cette idée qu'il faudrait qu'on creuse des tranchées, comme si la réalité de la guerre aujourd'hui, c'était de se mettre dans les tranchées. Oui, il y a des tranchées, mais la guerre, le danger, la mort, vient surtout du ciel.
Pourtant, Christine Cadeau, on pourrait opposer à ce discours le fait que cette notion de guerre, on la mobilise pratiquement à tout va. Je pense évidemment à la façon dont le président de la République a parlé de guerre dans ce combat contre le Covid-19, par exemple. Je pense également à la façon dont les États européens actuellement se mobilisent pour tenter de reconstruire, restructurer une industrie de défense. Est-ce qu'on n'a pas là quand même une omniprésence de la guerre dans les discours et aussi dans une forme de réaction?
Oui, et puis le réarmement démographique.
Le réarmement démographique, pour parler de démographie.
N'ayons pas peur des mots. Oui. C'est ça, c'est la guerre sous son sens métaphorique. Tant que
loin du réel.
L'image, tant que ça n'est pas effectivement quelque chose qui frappe à nos portes, on oublie de penser la guerre dans ses formes hybrides, dans des nouvelles formes qui nous concernent aujourd'hui sur le territoire européen et de l'Union européenne, y compris en France, lorsqu'il y a des ransomware contre les hôpitaux. Et on sait très bien que le Kremlin est très favorable à ces actions, soi-disant indépendante de sa volonté.
Des ransomware, c'est-à-dire des cyberattaques. Des
cyberattaques contre les hôpitaux, qui déstabilisent quand même beaucoup les systèmes de santé, qui invitent les hôpitaux à se protéger encore plus, alors qu'on sait que les systèmes de santé ne sont pas les mieux dotés financièrement. Lorsque les drones survolent certaines zones, partout en Europe, on est quand même dans une attention portée, disons, à des entreprises de déstabilisation électorale, les fake news, pour lesquelles on prend quand même déjà des mesures.
L'Europe est en guerre.
Il y a une forme de guerre qui est déjà là, oui. Mais effectivement, ce ne sont pas les chars russes, parce que ça ne sera pas les chars russes, de toute façon.
Je voudrais citer un extrait d'un article que vous avez coécrit avec Constantin Sigoff dans la revue en ligne AOC. Vous coécrivez « Les morts de la guerre en Ukraine devraient nous forcer, Européens de l'Ouest, à regarder en face la réalité de cette légende à laquelle nous croyons tant, celle d'un espace supranational construit après la Seconde Guerre mondiale sur la volonté pacifique de héros visionnaires et fondateurs dont nous glorifions parfois tant d'être les héritiers. » Fin de citation. C'est aussi le travail que vous menez, un lien fort, ténu entre cette conscience présente de la guerre, de la non-guerre, et le rapport que nous avons avec notre propre mémoire collective.
Oui, il y a une sorte de récit, un peu à la façon dont aux États-Unis il y a le western, qui est un récit de fondation qui montre comment l'arrivée du droit pacifie l'espace de la frontière, la recule d'ailleurs de plus en plus au détriment
qui s'étend en continu.
Qui s'entend, voilà. Évidemment, il n'y a aucun esclavage, il n'y a aucun natives. Et finalement, nous avons notre roman aussi, notre western à nous. On a un espace pacifié par le droit, par l'économie, par la libre circulation et il y a des hors-la-loi quand même, on a bien conscience qu'il y a un hors-la-loi. Alors c'est pas le Far West, c'est le Far East. Mais au fond, quel type d'action nous menons? Enfin, où est le shérif dans cet Occident européen soi-disant pacifié? Quel est celui qui met de l'ordre à nos frontières et même chez nous?
Je voudrais faire un peu d'histoire avec vous et vous demander un exercice. Examiner le discours qui suit, c'est celui qui a été tenu le 9 mai par l'eurodéputé Renew, Fabienne Keller.
Le discours de Robert Schuman qui imagine qu'au lieu de réfléchir quel pays devrait maîtriser le charbon et l'acier, dit on va se mettre ensemble. Et après la guerre, deux grands piliers. D'abord, en premier, la Convention des droits de l'homme. Plus jamais ça, les camps de concentration, être torturé, mourir à cause de sa race, de sa religion, de son orientation sexuelle. Et puis, deuxième pilier, la démocratie, représentée par les deux assemblées parlementaires que Strasbourg a l'honneur d'accueillir, celle du Conseil de l'Europe des 46 et le Parlement européen. L'Europe, c'est aussi se mettre ensemble face à la guerre qui est désormais à nos portes. Et puis la culture européenne, les autres États membres, à la fois ils nous ressemblent et puis ils sont très différents. Donc s'ouvrir, découvrir, on débat, on discute, on trouve ce qui nous rassemble au lieu toujours se diviser.
Une analyse de texte, Christine Cadeau, une exégèse. Qu'est-ce qui transparaît dans le discours de cet eurodéputé Renew?
On commémore aussi beaucoup, c'est-à-dire renvoyer systématiquement aux figures fondatrices et au projet initial, c'est aussi très souvent pour ne pas voir ce qui a changé par rapport au projet initial. C'est-à-dire, évidemment, le projet initial, pas forcément celui de Schuman d'ailleurs, mais il a aussi une dimension qui accompagne les entreprises de colonisation, ça n'est jamais enseigné ensemble. C'est-à-dire, on n'étudie pas les études européennes et, par exemple, la décolonisation. Qu'en est-il du traité de Rome en 57 et des velléités indépendantistes en Algérie, par exemple. Le 8 mai 45, c'est évidemment la libération de l'Europe, mais c'est aussi les massacres qui sont opérés à Selma, à Kerata, parce qu'il y a, en même temps que la célébration de la victoire, par des soldats qui ont participé aussi à la libération, quelques menées indépendantistes, sur lesquelles, donc, ce 8 mai, célébration de la victoire en Europe et d'un espace pacifié, a ses marges, au sud, à l'est, évidemment, puisque le 9 mai, c'est aussi à Prague, les chars soviétiques qui ne partiront pas.
Qu'est-ce que ça permettrait, qu'est-ce que ça produirait de tenir ensemble ces deux bouts, d'enseigner dans un même espace, dans une même histoire, ces différents récits ?
Je pense que ce serait déjà revenir sur un récit alors pluriel. On peut saluer que cette idée de pluralité, accueillir la pluralité, l'hospitalité de récits qui soient différents, c'est essentiel, je pense, évidemment. Mais c'est aussi revenir sur cette idée que la commémoration, le discours sur les mémoires, et sur l'histoire d'ailleurs parfois, n'est pas un discours consensuel. Et accepter le dissensus. Et je pense qu'on gagnerait beaucoup à fabriquer des musées qui soient faits un peu différemment, à parler de commémoration de façon un peu différente. Quand on célèbre Oradour-sur-Glane, par exemple, on commémore plutôt qu'on célèbre, on commémore les victimes. On pourrait parler aussi d'autres exemples, en République tchèque, à Lidice, par exemple, qui se passent des procédures, processus qui sont relativement similaires. Pourquoi ne pas décloisonner, en fait, nos pratiques commémoratives, nos enseignements, voir comment ces marches nous permettent d'avoir des récits pluriels, qui accueillerait à mon sens beaucoup plus, disons, d'appétence aussi pour le sujet européen, y compris de la part de gens qui ne sont pas nés dans l'espace actuel de l'Europe, par exemple.
Je vous avais dit qu'on ferait de l'histoire, alors allons-y justement. Je reviens à cette date que vous avez donnée, le traité de Rome en 1957. Quelle était alors la volonté de l'Union européenne, des pères fondateurs, du point de vue justement mémoriel? Avait-il pour ambition de créer, de dessiner une mémoire collective des Européens?
Alors, en 1950, on peut trouver des déclarations de Schuman qui fustigent l'écriture du roman national, en disant, voilà, tant qu'il y aura ces enseignements très cantonnés à l'étude des particularismes nationaux, l'Europe ne pourra pas émerger, et l'esprit européen ne pourra pas émerger, la citoyenneté européenne ne pourra pas être incarnée. Je pense qu'il a raison de ce point de vue-là. Ce qu'il ne voyait pas et ce qu'il appelait de ses voeux, c'est que il appelait finalement à un nouvel enseignement, tourné évidemment vers l'enseignement de ce que peut l'Europe pour vous aujourd'hui, et elle peut certainement beaucoup de choses, elle pourrait même certainement encore plus. Mais c'est un nouveau catéchisme, un nouveau roman européen qui s'est écrit, peut-être malgré lui, puisqu'en fait, ça, évidemment, ça s'est écrit après. Notamment dans les années 80, la Commission européenne a produit tout un nombre d'objets, de symboles qui ont accompagné cette envie de parler de l'Europe de façon moins savante, moins technique, de fabriquer du citoyen par le drapeau, par l'hymne, par le passeport, Bordeaux, ces objets du quotidien, et même un album de vignettes Panini. Donc vraiment pénétrer au cœur des cours de récréation, de l'échange, de l'apprentissage, en fait, de l'échange entre vignettes de valeurs différentes entre enfants pour faire apprendre ce qu'est l'Europe.
Je voudrais justement qu'on tente d'interroger la façon dont ce roman européen a été construit. Le premier constat, c'est que à l'école, on le trace d'abord comme un enchaînement de dates et de traités. Il se fonde aussi sur un discours absolument héroïsant des pères fondateurs. C'est peut-être ce qui saute aux yeux à prime abord.
Oui, de ce point de vue-là, c'est pas une grammaire qui nous est inconnue, puisque les romans nationaux, en général, sont toujours forgés autour de figures fondatrices. L'histoire à la Michelet, c'est quand même aussi essentiellement ça. Mais on fait la même chose. Et d'ailleurs, on fait la même chose sans beaucoup de succès, me semble-t-il. Donc, je suis pas sûre qu'utiliser ces mêmes cadres narratifs et ces mêmes grammaires, y compris iconographiques, ces actions commémoratives qui sont faites de la même façon que ce que l'on fait pour l'État-nation, soient très efficaces. On fabrique des frises historiques. On va mettre, par exemple, d'un côté de la frise Napoléon, le début de l'histoire française pour l'Europe, du projet européen français. Et puis, à la fin de l'histoire, il y a Nicolas Sarkozy. Alors, cette frise, elle a été fabriquée lors de la présidence tournante de l'Union européenne par la France en 2008 et produite par le Quai d'Orsay. Il y aurait certainement d'autres façons d'écrire l'histoire, d'autres façons de les représenter qui ne soient pas centrées sur les identités nationales.
L'autre chose qui frappe Christine Cadeau dans le récit que l'on fait de cette histoire européenne, c'est la manière dont on considère chacun des États. Tous les États ne sont pas à égalité. Il y a évidemment le couple franco-allemand qui prédomine, puis un deuxième cercle, je dirais, celui des États fondateurs, et puis des cercles qui s'agrandissent, et au fil des élargissements successifs de l'Union européenne, plus on a adhéré d'une manière tardive à l'Union européenne, moins on a dans cette histoire une place importante, prépondérante.
Oui, tout à fait. Alors, le couple franco-allemand, évidemment, on y trouve notre intérêt. Nous, Français, les Allemands parlent aussi volontiers d'un couple germano-polonais. Ça,
bon, ça on aime moins.
On est moins au courant et manifestement, on ne le savait pas. Mais on parle beaucoup, évidemment, les infographies, les cartographies, les frises historiques reprennent beaucoup dans l'image aussi, pas seulement dans le, voilà, la poignée de main de Mitterrand et Kohl est une image toujours présente dans nos manuels scolaires, comme si c'était un indépassable du renouveau de l'amitié franco-allemande en 1984. Je pense qu'on gagnerait là aussi à élargir un tout petit peu nos iconographies, nos couples, qui sont pas seulement des couples, évidemment. Surtout que c'est renforcé parfois par le discours américain, qui vient parfois brosser dans le sens du poil cette idée qu'il y a, des grands et des petits. Il y a des nouveaux et des anciens. Alors quand ça l'arrange, justement, on traite plus avec les anciens, on va traiter avec la nouvelle Europe. Pendant la guerre en Irak, c'était évidemment l'éclosion d'un nouvel acteur sur la scène européenne qui pouvait parler aux États-Unis. Et je pense que la question qui m'a été posée, par exemple, ce matin par un étudiant dans la semaine de l'Europe à Strasbourg, qui est organisée par l'IEP de Strasbourg, c'était « Mais ne pensez-vous pas que Zelensky a un intérêt, la survie de son pays, à intégrer l'Union européenne ? » Au fond, est-ce que c'est une question d'intérêt de vouloir être européen ? J'ai renversé la question, mais au fond, quel est notre intérêt à nous ? C'est à nous qu'il faut poser la question. N'a-t-on pas déjà une idée préconçue de ce que l'Ukraine serait ou non européenne ?
La question que vous soulevez, c'est aussi la façon dont, d'une manière générale, on considère ces États dits de l'Est, ou la façon dont d'abord, on les considère comme étant à la marge de l'Union européenne, une marge temporelle, puisqu'ils ont été les derniers à adhérer à l'Union, marge évidemment géographique, puisque nous-mêmes nous situons à l'Ouest, mais surtout la façon dont ces marges sont intégrées dans un processus institutionnel progressif qui prend du temps, mais qui n'est jamais plein et entier.
Tout à fait. Ce rapport au temps, c'est en général... Alors, on sait très bien faire ça en Occident, puisque c'est voilà la considération que l'autre est toujours attardé, c'est-à-dire il n'est pas dans notre temps à nous, et donc il n'est jamais considéré comme un acteur en pleine autonomie. Répondre à la question de savoir pourquoi l'Ukraine veut être européenne, laissons voter dans un pays en paix qui pourra voter pour savoir si oui ou non il désire être européen. J'ai pas beaucoup de doutes sur la réponse, mais il me semble qu'en tout cas c'est l'autonomie qu'on doit reconnaître à l'ensemble des pays d'Europe centrale, d'Europe de l'Est, et non pas parler d'un retour à l'Europe comme on l'a trop souvent fait depuis l'Occident lorsque un certain nombre de pays d'Europe centrale ont rejoint l'Union européenne. C'est comme si c'était naturel.
Quel lien opérez-vous, Christine Cadeau, entre identité et mémoire ? Est-ce que cette clé introuvable de l'identité européenne se trouve dans la serrure mémorielle ? Est-ce que c'est par la mémoire qu'on va fabriquer, dessiner, constituer l'identité européenne que l'on cherche depuis des décennies maintenant ?
Vous savez, c'est pas la quête du Graal, hein. Y a pas une idée, une vérité de l'idée d'Europe qui flotte dans les nuages et qu'il s'agirait de saisir. Ça, c'est vraiment Léo Strauss. Je pense qu'on est un peu revenu de cette idée-là. Cette idée d'Europe, de ce qu'elle est, de ce qu'elle peut être, de cet appel des possibles. J'ai vu que vous en parliez dans une précédente émission autour des années 30 et de la violence des années 30. C'est justement cette idée que l'Europe, elle est ce que l'on peut en faire avec les personnes, les pays, les États qui veulent bien nous rejoindre. Et donc, ces contours, ces valeurs, je n'aime pas beaucoup ce terme-là parce qu'il est faussement universalisant, sa justice, son droit, je pense que c'est plutôt ça vers quoi on doit se tourner. Aujourd'hui, l'Europe, c'est peut-être moins des mémoires qu'un droit à faire respecter, une exigence de justice.
Vous parliez d'une émission que l'on a diffusée lundi intitulée « Les années 30 nous aveuglent-elles » avec Johan Chapoutot et Nicolas Offenstadt, deux historiens passionnants également à écouter. Christine Cadeau, je reviens cette fois-ci sur la mémoire de l'Europe, la mémoire des Européens et plus spécifiquement sur la mémoire des États membres. Est-ce qu'il existe entre ces États membres une concurrence mémorielle ? Comment on peut parfois la repérer entre des groupes à l'échelle d'une nation ?
Elle existe entre membres actuels, entre membres qui voudraient également la rejoindre. L'un des motifs avancés notamment par le régime poutinien pour envahir l'Ukraine, c'est justement la bataille autour des questions mémorielles. L'Ukraine est à nous parce qu'elle a toujours été un territoire russe. Donc c'est une mémoire falsifiée, évidemment, qui a des conséquences dramatiques en termes de conséquences de combats des mémoires. C'est les combats au sens réel du terme, avec des morts. On peut mentionner beaucoup de choses. Ces mémoires qui sont en conflit, elles sont évidemment en conflit entre États-nations. qui était le premier, qui a encore sa place. La crise de la dette grecque, notamment, par exemple, a permis de dire aux Français, mais vous ne respectez pas les critères de convergence économique, comme si, par ailleurs, nous les respections toujours, nous-mêmes. Les Grecs se sont défendus en disant, mais nous sommes le berceau de l'Europe, c'est-à-dire la démocratie athénienne donne corps. On ne peut pas imaginer que l'Europe joue en deuxième division, comme aurait dit Giscard en 79.
Ou une Europe sans Grèce.
Une Europe sans Grèce. Donc, c'est bien notre rapport à la mémoire qui nous fait penser que l'Italie, parce qu'il y aurait la voie romaine, ou la Grèce, parce qu'il y aurait le berceau athénien, sont des membres à part entière et ayant plus de légitimité que d'autres à être dans cette Union européenne.
Qui produit aujourd'hui, quelle institution plutôt produit aujourd'hui ce roman européen à l'échelle de la nation, à l'échelle nationale? On voit bien le rôle joué par l'État à travers les manuels scolaires, à travers les commémorations, à travers tout un tas justement d'opérations pour structurer cette mémoire collective et nationale. À l'échelle européenne, qui prend en charge cette dimension-là?
Alors les institutions européennes elles-mêmes, elles font leur propre histoire.
On les voit si peu,
aussi,
elles paraissent invisibles.
Ah, pourtant elles sont quand même là, de temps en temps. Évidemment, il peut y avoir d'autres choses comme l'Eurovision, les manifestations sportives également. L'UEFA a un lien avec une certaine représentation de ce qu'est l'Europe et de ce qui serait légitime à y être ou à ne pas y être. Les clubs de foot de Crimée, par exemple, ne participent pas aux Coupes d'Europe des clubs. Donc, ça dessine en creux un certain type d'Europe. Évidemment, les États-nations, cette idée d'un roman national qui participe à l'écriture d'une histoire de l'intégration européenne. Quand on panthéonise Simone Veil, par exemple, on rappelle évidemment qu'elle a été la première femme présidente d'un Parlement européen élu au suffrage universel direct. Donc il y a une sorte de cocorico derrière qu'on ne peut pas s'empêcher de pousser. Lorsque Jean Monnet est panthéonisé par Mitterrand, il ne peut pas s'empêcher de penser que voilà, le terroir dont il est issu, c'est aussi un peu le sien. C'est la Charente, voilà, qui donnerait naissance intrinsèquement à une petite graine d'européanité dont lui-même voudrait récupérer les fruits. Et puis les municipalités, c'est à tous les étages, c'est multiscalaire de ce point de vue-là. Et puis les entrepreneurs de mémoire, associatifs, militants, les partis politiques qui vont se réclamer d'une figure plutôt que de l'autre. C'est vraiment, parfois un ministère contre un autre, ministère des Affaires étrangères qui va plutôt promouvoir Schuman, d'autres ministères qui auront plutôt à cœur de promouvoir Jean Monnet.
J'en reviens à l'actualité, Christine Cadeau, à ces 4 ans de guerre en Ukraine. Comment, du point de vue mémoriel, là aussi, aider, soutenir l'Ukraine? Est-ce qu'il faut mettre la mémoire de côté, la délaisser un peu pour agir un peu plus, pour donner un peu plus ce dont l'Ukraine a pratiquement et tangiblement besoin, ou bien non, la mémoire peut aussi avoir des effets et sur cette guerre et sur les esprits qui la prennent en charge?
Alors, c'est difficile de conduire un véhicule en regardant systématiquement dans le rétroviseur. Je pense qu'au bout d'un moment, ça devient dangereux. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais regarder dans le rétroviseur. Donc, si la mémoire est mobilisée pour alimenter une agora, un espace public, celui du musée, celui des commémorations, celui de l'espace pédagogique que tous les enseignants ont à leur disposition, plus facilement dans l'enseignement supérieur que dans le secondaire, mais quand même, il y a aussi des choses qui sont dans le secondaire, alors les mémoires peuvent se confronter, parce qu'elles permettent de faire émerger quelque chose qui n'est pas de l'ordre du consensus. Évidemment, montrer qu'il y a du débat, c'est repolitiser ces questions-là et la possibilité pour la mémoire de faire agir, d'intervenir dans un espace public
plus démocratique. Qu'est-ce que ça veut dire faire agir pour une mémoire, mémoire collective?
C'est l'inverse du fait de rester de marbre devant les commémorations. Quand je dis rester de marbre, c'est faire entrer Badinter au Panthéon, ne pas remarquer que son dernier ouvrage, coécrit avec deux autres auteurs juristes, c'était l'acte d'accusation de Poutine, et ne pas en parler du tout. C'est-à-dire enfermer un héritage éventuellement dont on imagine
rigidifié jusqu'au consensus absolu, donc sans aspérité,
voire l'ignorer, c'est-à-dire que ça n'a pas même été mentionné. C'est son dernier ouvrage. On peut penser que dans les biographies qui sont faites de personnes qui rentrent au Panthéon, à un moment donné, il y a quelque chose qui peut faire agir. En tout cas, une sorte de testament politique. En tout cas, manifestement, c'est pour ça que cet ouvrage avait été rédigé, me semble-t-il. Faire silence sur ce que peut provoquer comme capacité d'agir la commémoration, c'est dommage.
Quid des mémoires citoyennes? Vous avez bien expliqué qui façonnait, qui fabriquait cette mémoire collective européenne, multiscalaire, à toutes les échelles. On voit des institutions qui œuvrent dans ce sens. Quel rôle peuvent jouer les citoyens aussi dans la manière de dessiner cette mémoire européenne?
Je pense que les premiers rôles, c'est d'avoir des musées qui laissent aussi place aux paroles des visiteurs. C'est-à-dire concevoir des espaces. Encore une fois, le musée est aussi un espace public qui doit penser le dissensus. On n'est pas très à l'aise avec cette idée d'un musée d'histoire qui ne soit pas réalisé comme un cours magistral qui viendrait d'en haut, où tous les cartels vous expliquent absolument tout et où vous enchaînez les salles pour parvenir à une histoire déjà écrite par le haut. Et je pense qu'il y a des musées d'histoire qui sont peut-être plus réalisés dans d'autres pays, peut-être plutôt anglo-américains. En Australie, il y a une longue tradition d'une muséographie qui est beaucoup plus critique. Alors certains la qualifieront de postmoderne, je crois qu'elle n'est pas du tout postmoderne de ce point de vue-là, elle est ouverte à des récits de public qui soient, voilà, qui puissent participer à des co-constructions de contenu.
Merci beaucoup Christine Cadeau d'avoir retracé notre mémoire collective européenne. Je redonne le titre de votre ouvrage, Mémoire collective européenne, c'est tout au pluriel et c'est aux presses universitaires de Vincennes, un ouvrage qui est apparu en 2019. Merci également à celles et ceux qui ont préparé cette émission, Audrey Carme, Bertie Bourdon, Rodi Eken, à la réalisation Léa Racine.